Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on retrouve ici Kylian Martin. Kylian Martin, bienvenue.
Merci. Merci, merci.
Je vais te présenter brièvement, puis ensuite, on va commencer cette interview. Donc, Kylian, tu es un ancien collégien. Tu as terminé ta maturité ici il y a 6 ans, tu m'as dit. Est-ce que tu peux nous dire, te présenter brièvement, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, et puis qui es-tu, Kylian?
Alors voilà, Kylian Martin, 24 ans. Je suis basketteur professionnel à Union Neuchâtel. Et ça fait donc depuis 6 ans que j'y suis, parce que j'ai directement quitté Genève après ma maturité. Donc voilà, je vis de ma passion.
D'accord. Donc aujourd'hui, tu es basketteur à Union Neuchâtel, et je crois aussi que tu vises un peu plus haut. Tu participes aux activités de l'équipe nationale, non?
C'est ça exactement. Alors maintenant, depuis 2 ans, je fais partie de l'équipe nationale senior, donc la plus haute, donc nationale suisse, où on prend part aux différents championnats européens avec la Nati.
Ok. Et puis donc, bon, la compétition est assez importante pour toi. Si je ne fais pas d'erreur ce week-end, tu vas jouer un match important, Final Four
C'est ça.
de la Coupe, hein, Coupe de la Ligue, c'est ça?
Ouais, ce week-end, il y a Final Four à Montreux. Donc, c'est demi-finale le samedi. Et puis, si on gagne, il y a la finale le dimanche.
Ok.
Donc, c'est le premier titre de la saison, parce qu'il y en a 3 au total. Il y a la Coupe de la Ligue, la Coupe de Suisse et puis le championnat. Et là, on va participer au premier ce week-end.
Super. Donc, bonne chance pour ce week-end. Voilà, on va venir un petit peu sur ta vie de collégien. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours dans le collège? Voilà, tes options, comment t'as passé ce collège ici?
Bah déjà, premièrement, c'était super. Je regarde des très bons souvenirs. Moi, j'étais en option biochimie. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait. J'étais plus scientifique. Et puis, j'avais aussi l'option complémentaire cinéma. Donc, ça, je sais que c'était un peu une spécialité du collège de Saussure. Et ça m'avait vraiment beaucoup plu.
Elle existe toujours, hein?
Elle existe toujours. Bah, c'est une bonne chose, je pense. Et voilà, non, c'était super, des superbes 4 années. J'ai vraiment adoré mon passage ici. Et ouais, ça me fait très plaisir d'être de retour ici aujourd'hui.
Super. Et puis du coup, depuis le collège, quel était ton parcours? Comment est-ce que tu es devenu basketteur professionnel finalement? À partir de quel moment tu t'es dit, bon bah je saute le pas, je fais plus rien d'autre que le basket?
Alors bah déjà, pendant que j'étais au collège, j'étais donc à Bernay. Et j'avais déjà, on va dire, un bon niveau. On avait une bonne équipe, d'ailleurs, qui était coachée par toi-même. Et à ce moment-là, au moment de finir mes études, j'avais déjà les contacts avec un agent. Et puis, il m'a dit, écoute, voilà, tu as fait une bonne saison. J'ai des contacts avec différents clubs de première division suisse. Et puis, il m'a fait la liste. Et puis ensuite, ces clubs m'ont appelé. Et puis, à ce moment-là, Neuchâtel s'était présenté comme étant le plus avenant envers moi. Et pour le coup, voilà, j'ai pas vraiment réfléchi. Je me suis dit, bon, les études, je regarderai ça plus tard. Et j'ai signé, ça a été très vite. Il n'y a pas eu énormément de réflexion parce que pour moi, c'était un but, c'était un rêve. Et voilà, il s'est proposé très vite à moi. Donc, il n'y a pas eu vraiment de grande hésitation.
Okay, donc, on peut dire que l'année après ta maturité, tu gagnais déjà ta vie du basket, c'est ça?
C'est ça, ouais. Alors, par contre, c'était pas vraiment des énormes salaires. Et la première année, justement, j'ai quand même dû faire mon service civil à côté, parce que pour moi il fallait faire ça. L'armée, c'était impossible. L'armée, elle pouvait pas m'arranger quelque chose ou me mettre en sport militaire. C'était vraiment que pour les sports individuels. Et du coup, moi à ce moment-là, j'étais un peu dans une impasse. Et du coup, j'ai essayé de postuler à Neuchâtel et le club m'a aidé à trouver un service civil. Et du coup, le service civil était au courant de ma situation sportive. Et donc, mon ancienne patronne était super et elle me laissait aller aux entraînements, finir plus tôt. Donc voilà. Et je travaillais dans un parascolaire.
Ok. Mais donc, on peut dire quand même qu'il y a une progression. Parce que les premières années, ce n'était pas une évidence que tu allais réussir à percer, à devenir professionnel. Puis qu'aujourd'hui, c'est bon, tu es établi dans le domaine, quoi.
Ouais, évidemment. Bon, ça, c'est comme dans tout sport, hein. Le club, il va pas arriver et puis me proposer un contrat qui est déjà gros. Moi, je suis arrivé comme à 19 ans. Donc forcément, c'est après, il faut gravir les échelons. Et puis voilà. Mais maintenant, c'est vrai que ça fait depuis maintenant, je peux dire, 3 ans que je suis vraiment professionnel et que je fais que ça.
Ok. Alors, on a une première question. Bon, peut-être que tu pourras l'adapter. On me demande si tu as déjà joué contre LeBron James. Je pense que la réponse est évidente, mais peut-être qu'on va l'adapter. C'est qui les meilleurs joueurs que tu as déjà pu affronter? Je crois qu'en équipe nationale, c'était, il y a eu un joueur NBA. Puis tu as un coéquipier aussi qui joue en NBA, non?
Ouais, Ouais, bah alors quand j'étais en équipe suisse il y a quelques années, il y avait Clint Capela. Donc moi à cette époque j'avais 20 ans. Il était là, il venait de signer son premier contrat qui était à je crois près de 90 millions sur 4 ans. Donc c'était quand même une belle expérience de le côtoyer pendant plus d'un mois tous les jours. Et puis cet été on s'est rendu en Croatie et là la Croatie se préparait pour l'Euro qui arrivait dans 2 semaines et on jouait contre eux. Et là il y avait tous les mecs qui sont en NBA actuellement, donc les Zubac, les Bogdanovic.
Donc tu as défendu sur Zubac, c'est ça?
C'est ça,
Ouais.
c'est ça. Et c'était très dur.
Ok. Si tu veux bien, on va te poser quelques questions sur ta vie pendant le collège, puis c'est un petit peu ça l'idée, c'est comment est-ce que tu as concilié ton activité sportive avec ta vie de collégien. Donc pendant que tu étais au collège, à quel niveau tu jouais exactement au basket?
Alors, j'étais en niveau national. Je jouais dans deux catégories actuellement. J'avais la première ligue, donc c'est semi-amateur, on va dire.
C'est la troisième division
suisse.
C'est la
troisième division suisse. Et en même temps, je faisais les moins de 20, c'est ça, avec toi,
Exactement.
En tant que coach. Donc, ouais, il y avait deux équipes à gérer.
Donc tu jouais dans deux équipes différentes et en plus tu faisais ton collège, c'est ça?
C'est exactement ça, ouais.
Okay. Du coup, ça représentait combien d'entraînements par semaine, la semaine type, on va dire?
Tous les soirs, donc ça faisait déjà 5. Et puis ensuite, à midi, on avait des fois les coachs de Bernay qui venaient et qui nous entraînaient individuellement. Donc ça pouvait varier. Après, ça dépendait des semaines forcément aussi du travail et de la charge de devoirs qu'on avait. Mais ça pouvait varier entre 5 et 8, je pense.
Ok, donc minimum 5 entraînements et puis maximum 8,
Ouais.
plus des matchs qui peuvent tomber dans deux catégories, c'est ça?
Bah plus presque 2 matchs par week-end.
Ouais. Alors attends, je regarde un petit peu, on a des questions sur la vie du collège. On demande qui a été ton professeur préféré au collège, ce qui me permettra d'enchaîner après sur une question à propos des profs. Mais vas-y, est-ce que tu as un souvenir? Est-ce qu'il y en a qui sont dans la salle, peut-être des profs, hein, je ne sais pas.
Alors, je me souviens pas beaucoup de noms, malheureusement, mais je me souviens d'un prof, un professeur de géographie, monsieur Gidet. Je sais pas s'il est
il
encore
a pris
là.
Sa retraite.
Il a encore ça. Ah. Alors, il y a monsieur Meyer aussi, mais je crois qu'il a aussi pris sa retraite.
Ouais, c'est
Alors,
vrai.
J'ai que des retraités.
Alors, il y a des profs jeunes qui sont arrivés, mais du coup, est-ce que les profs, ils prenaient en compte ton activité sportive? Est-ce que tu as l'impression qu'on savait que tu étais basketteur professionnel, enfin, pas basketteur professionnel, mais basketteur de haut niveau, et puis qu'on s'adaptait pour toi, ou bien pas du tout?
Alors c'est un peu mitigé sur ce niveau-là parce que ça dépendait en fait de si le prof s'est intéressé au sport ou pas. Si le prof s'intéressait au sport, alors on pouvait facilement échanger. Mais après, je pense pas qu'il y ait vraiment de... Ils ont pas fait vraiment, je pense, d'efforts. Ils s'intéressaient, on en parlait un petit peu aux petites pauses. Mais sinon,
Okay.
il n'y avait pas vraiment d'arrangement fait par les profs.
Okay. Là, on me pose une autre question. On me demande, est-ce que tu te sentais submergé de travail? Il y a un petit cœur pour montrer que c'est approuvé. Hein. Donc est-ce que... Il y a des moments où tu te sentais un peu submergé par le stress, par la quantité de travail à coordonner avec ton activité sportive, en fait.
Ouais, non, c'est clair. Après, c'est quelque chose, je veux dire, qui est un peu obligatoire si on veut survivre dans ce genre de milieu. Il faut savoir travailler avec la pression et avec le stress. Et c'est vrai qu'à certains moments, c'était compliqué, surtout quand il y avait les périodes d'examen qui arrivaient. C'était aussi des périodes importantes pour le basket. Donc, il y a tout qui rentrait un peu en même temps. Et c'est vrai que... Il y a des moments qui sont stressants, mais on se construit aussi grâce à ce genre de moments. Donc,
du coup, toi, comment tu t'adaptais à ça? Tu avais des stratégies que tu mettais en place pour essayer de gérer ce stress ou...
Non, pas vraiment. Après, les stratégies, c'était juste que je travaillais comme un fou à côté. Hein. On finissait les entraînements à 22h. Je rentrais chez moi, c'était 22h45. Et je savais que j'avais encore 2 heures de révision ou de travail à faire. Et voilà, c'était la discipline en fait qui m'a aidé énormément dans ce genre de situation.
Donc, tu avais une organisation particulière pour le travail, pour les devoirs, ou bien est-ce que tu consacrais des moments spéciaux à ton travail pour l'école? Comment ça s'organisait tout ça?
Non, pas vraiment. Je faisais dès que j'avais du moment libre. J'avais pas vraiment un programme spécial où je me disais qu'aujourd'hui, je vais faire ça. C'est juste que dès que j'avais 10 minutes de libre, je me jetais sur mes révisions, sur mes devoirs. Et voilà.
Ok. Je continue à regarder les questions. Bon, alors, on a des questions. Un duel avec Mathilde, on va éviter. On va garder les questions des goûts de Kylian pour la fin. On me demande comment continuer un sport à haut niveau sans vouloir en faire son métier. Est-ce que pour toi, le basket, c'est un plaisir ou c'est vraiment une activité professionnelle, finalement? Est-ce que tu penses qu'on peut concilier le sport de haut niveau juste pour le plaisir? Je ne sais pas si c'est exactement ça le sens de la question, mais... Voilà.
Pour moi, c'est dur. C'est ma passion et en même temps, c'est mon métier. Donc forcément, quand ça va bien, je suis très heureux. Et quand ça va pas...
Donc hier soir, par exemple, c'était très dur.
Hier soir, c'était très dur. Ouais. Et donc forcément, ça, le moral, il va moins bien. Mais c'est un peu ce qui est dangereux quand on exerce un métier qu'on fait avec passion, avec une grande passion. C'est que voilà, quand ça va bien, on est au ciel. Et quand ça va pas... Ouais. Donc il faut apprendre à être constant mentalement et à être fort et à pas trop... voler quand ça va bien et puis pas être au fond du trou quand ça va pas.
Pas trop d'euphorie. Et puis, ouais. Du coup, comment tu faisais pour rester motivé ? Alors peut-être aujourd'hui, tu as appris avec la maturité, mais je replonge sur tes années de collège. Quand tu étais au collège, comment tu faisais pour rester motivé aussi bien par le collège, parce que des fois c'est difficile, on a l'impression d'être submergé de travail, et aussi par les entraînements, la compétition, il faut repartir tous les soirs, 22h. La compétition, il faut aller jouer au fin fond du Valais ou à l'autre bout de la Suisse. C'était quoi tes petits trucs là, pour rester motivé ?
Non, j'avais un but, j'avais un rêve. Forcément, c'était de jouer professionnel et j'avais aussi un objectif, c'était d'avoir ma maturité. Moi, je suis resté vraiment sur ces deux axes-là et je n'ai jamais lâché. Alors ça, forcément, je pense que c'est une question après, il y a eu certains sacrifices, mais pour moi, c'était clair et net. Ma vision, elle était claire. Je voulais être un moment dans ma vie professionnelle et avoir ma maturité parce que c'était important pour moi et aussi important pour mes parents à ce moment-là. Ouais.
Donc ça, t'as un petit peu, t'es venu sur la question suivante. C'est vrai qu'on ressent très bien que tu avais deux objectifs très, très clairs dans ta tête. Et est-ce que ça impliquait des sacrifices ? Alors du coup, t'as un petit peu répondu à cette question, mais est-ce que tu pourrais les décrire ? Quel sacrifice finalement sur ta vie l'adolescence, t'as consenti pour parvenir à ce double objectif ?
Le premier, forcément, c'est la vie sociale. Hein. Je pense que quand on a un rythme comme ça, quand j'étais au collège avec deux matchs par week-end et puis les devoirs et les exas, sortir, ça devient compliqué. Et c'est vrai que c'est dur parce qu'on sait que c'est un peu parmi les meilleures années de notre jeunesse, les années au collège où on commence à sortir, on commence à s'amuser dehors et ça c'était compliqué. Après voilà, ça veut pas dire que je le faisais pas du tout, j'ai fait quelques sorties, mais c'est, même aujourd'hui encore je vois mes potes qui sont à l'université qui sortent presque tous les samedis soirs, qui vont s'amuser. Moi c'est quelque chose que je peux pas faire parce que j'ai match ou j'ai entraînement, donc voilà. Mais après je sais profiter d'autres choses aussi et pour moi ça a été un léger regret pendant mes premières années, mais maintenant j'ai su vivre avec et il n'y a plus vraiment de problème.
Ouais. Je propose qu'on reprenne encore peut-être deux, trois questions ici. Est-ce que tes parents t'ont dit que tu y arriveras, mon fils ? On va peut-être, pour reprendre cette question, on va essayer de la reformer autrement. Est-ce que tu peux nous décrire ton encadrement, les gens sur qui tu pouvais compter pendant ton parcours du collège, aussi bien pour comme soutien scolaire que comme soutien pour la réussite sportive. Qui a contribué à la réussite ?
Soutien scolaire, malheureusement, il n'y avait pas grand monde. Hein. Je pense qu'à ce moment-là, t'es un peu tout seul. Après, forcément, y a mes parents qui faisaient en sorte qu'ils venaient me chercher après les entraînements pour que je puisse rentrer plus vite à la maison pour étudier. Après, voilà, les coachs à Bernay, ils étaient top parce que si exceptionnellement on devait louper un entraînement, souvent ça passait. Il faut quand même avoir une bonne raison, mais ça passait. Donc voilà, mais puis mes parents, ils m'ont toujours, pour rebondir sur la question, mes parents, ils ont toujours été, ils m'ont toujours supporté dans ce sens-là. Quand je leur ai dit que je ne voulais pas aller à l'université ou faire quelque chose d'autre, ils m'ont supporté, il n'y a pas eu vraiment de problème à la maison, donc c'est plutôt cool.
Ouais. Je vais juste reprendre peut-être une question un peu plus précise. Est-ce que tu penses qu'il y a des leçons dans ton parcours que tu as, je dis, dans la conciliation des études avec le basket, qui t'ont permis de mieux réussir aujourd'hui, des choses que tu as apprises, des rituels que tu as mis en place qui te permettent aujourd'hui de bien concilier, de réussir dans ta carrière sportive, on va dire ?
Écoute, la première chose qui me vient en tête, c'est forcément la persévérance. Je pense que c'est le truc que tu apprends aussi dans ce genre, quand tu fais ce genre d'études et que à côté tu as une activité sportive, c'est que tu n'as pas envie d'abandonner, donc tu continues à te battre, tu continues à étudier, peu importe la fatigue, tu vas persévérer, et ça c'est le premier point. Et après forcément il y a aussi la discipline, savoir que quand on doit faire quelque chose et quand on ne doit pas le faire. Donc comme sortir avec les potes, la tentation elle est forte.
Structurer un peu sa vie quoi.
C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Aussi, ça c'est quelque chose que je fais plus aujourd'hui, mais les temps de repos, il y a les après-midi, et même à Neuchâtel, on me propose de sortir. Et moi je sais que mon corps il est fatigué, et même aller marcher. Donc voilà, ça m'a appris ça.
Et ça, tu dis que apprendre à se reposer, par exemple, tu as appris au collège déjà.
Ouais, forcément, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas tout ça. Hein. Ça, c'est aussi un truc, alors je ne vais pas dire que c'est un sacrifice, mais j'avais pas le temps pour ça. Ouais. Donc, dès que je finissais mes devoirs, c'était au lit. Et puis, de toute façon, je m'endormais en 5 minutes parce que j'étais KO. Il n'y avait pas de temps pour aller jouer à la Play ou quoi que ce soit.
Okay. Alors, il a changé la mise en page, mais il y a une question sur les infrastructures. En fait, est-ce que le collège t'a aidé en te donnant accès à des salles, est-ce que tu avais des mesures qui étaient mises en place par le collège pour t'aider à concilier tes études et ton activité sportive?
Ouais, alors la chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné les clés aux différents entraîneurs de Bernay. Donc on avait la salle à midi pour venir s'entraîner. On était un petit groupe parce que à cette époque-là, on était plusieurs de Bernay à étudier au collège. Donc on était 4-5. Il y a aussi d'autres joueurs qui venaient d'autres écoles qui venaient s'entraîner ici aussi. Et puis il y avait l'accès au fitness, je crois. Il ne m'avait pas fait payer ou il y avait quelque chose comme ça.
Ouais, il y a la salle de musculation là, qui était disponible.
C'est okay. Ça.
Et puis finalement, peut-être une question un peu plus personnelle. Quel plaisir t'as retiré, toi, de mener cette double vie? C'était quoi ton plaisir finalement dans cette démarche?
Bon, le plaisir, c'est que je suis assez perfectionniste et c'était pour moi déjà d'avoir une vie bien remplie. C'était quand même quelque chose de cool parce que j'aime pas ne rien faire. Donc j'avais des objectifs dans les deux catégories et c'était, à mes yeux, c'était motivant même d'aller à l'école parce que je savais que j'avais un examen, mais c'était aussi comme un test, comme un match de basket. Il fallait que j'y arrive préparé, que j'ai bien révisé et j'étais prêt à affronter cet examen. Et pour moi, c'était
dimension de compétition en fait.
Je mêlais la compétition au scolaire et donc ça m'a aidé en tout cas à survivre ce passage et avoir en tout cas en même temps du plaisir.
Okay. Puis encore plus personnel, toi tu gardes un souvenir, c'est quoi ton meilleur souvenir de ta période au collège?
Mais tu parles des fêtes ou...
Ça peut être les fêtes, oui.
Non, mais je me souviens que l'escalade chaque année c'était quelque chose
Je me rappelle, t'es venu libérer les élèves dans ma classe la dernière
année. C'est ça, et surtout on commençait à faire la fête, c'était 7h30 du matin, donc ça c'était un bon souvenir extrascolaire, on va dire.
On va peut-être voir un petit peu s'il y a des questions... Que penses-tu de ton ancien coéquipier et actuel ami Selim Fofana au niveau basket? Donc, pour rappel, Selim Fofana, il était aussi au collège, mais lui, il a arrêté après la première année. Et vous avez joué ensemble à Neuchâtel jusqu'à la saison passée, hein, c'est ça? Il est aussi en équipe nationale et vous étiez ensemble à Bernay, en fait, c'est ça? Hein,
c'est un peu la belle histoire parce qu'on se connaît depuis qu'on a 11 ans. On a fait toutes nos classes à Bernay ensemble. Et puis ensuite, moi, j'ai signé à Neuchâtel un an avant lui. Et puis il est venu me rejoindre ensuite. Et puis là, on a fait 4 saisons ensemble. Puis là, cette année, il est parti. Il a décidé de quitter la Suisse pour aller jouer au Monténégro. Donc il y a une ligue un peu plus élevée que le niveau suisse. Et forcément, Selim, c'est un de mes meilleurs amis. Le sport, ça crée des liens qui sont assez forts entre les jeunes. Je pense que c'est une école de vie. Et puis forcément, tu crées des amis pour la vie, honnêtement. Et ce que je pense de lui, évidemment, je suis très fier pour lui qu'il puisse partir de la Suisse et vivre cette expérience à l'étranger.
Il y a des questions. Je prends les questions du public au fur et à mesure, mais là, on m'a dit est-ce qu'il y a des profs qui te décourageaient, qui peut-être se montraient pas forcément très encourageants dans ton activité sportive ou qui t'ont incité peut-être à diminuer? Je sais pas si c'est...
Non, jamais. Après, j'en parlais pas à tout le monde non plus. Alors, ils étaient au courant, mais je faisais pas la victime, entre guillemets, et dire « Ah, mais monsieur, j'ai entraînement, je peux pas faire ce devoir. » Je préférais me taire et juste travailler. Donc non, heureusement, aucun prof ne s'est mis sur mon chemin.
Est-ce que c'est dur d'être basketteur en Suisse, nous demande le public? Est-ce que... dur, ça dépend ce qu'on dit de dur, hein, mais...
Non, forcément, c'est pas donné à tout le monde. C'est comme arriver à un tel niveau, on va dire, professionnel. Il n'y en a pas beaucoup qui sont appelés.
Ah oui, vous êtes combien de Suisses à peu près en Suisse? Il y a quoi, une trentaine de joueurs?
Ouais, c'est ça. Et honnêtement, pas tous gagnent leur vie grâce à ça. Là, il y en a beaucoup qui sont aux études à côté ou qui ont même un travail. Et dans certains clubs, il y a malheureusement certains clubs en première division suisse qui ne sont pas 100% professionnels dans leur effectif. Donc moi, j'ai la chance, on va dire, d'être parmi peut-être la petite dizaine, voire quinzaine de joueurs qui peuvent ne faire que ça. Ouais. Donc, ça reste compliqué d'atteindre ce niveau, je pense, quand même en Suisse, parce que les infrastructures, elles ne sont pas non plus au top. Mais je suis parmi les chanceux, on va dire, de ce championnat.
Alors, des questions encore plus personnelles. Tu mesures combien ? On va passer 2 mètres, non ?
Ouais, je fais 2 mètres 04.
Alors, à quel point penses-tu que la confiance joue un rôle dans la performance en match ? As-tu connu des problèmes liés à la confiance en lien avec le basket ?
Alors, ça, c'est une belle question.
Ouais, une bonne question. Hein.
Ça, il faut développer.
Non, bah.
Ah, tu veux venir ? Ben, c'est Mathéo qui est à côté de nous là, qui a posé la question. Mais... je rappelle au public, vous pouvez venir poser directement la question hein, si vous voulez. Mais ouais, alors en levant la main, vous pouvez venir poser la question. Mais il a déjà répondu à cette question, mais allons-y.
Non, bah écoute, forcément, la confiance, c'est un point clé. Le mental, c'est un point clé dans le sport professionnel.
Est-ce que c'est plus au basket que dans d'autres sports, t'as l'impression, ou bien tu...
Je pense que ça se joue dans tous les sports. Après, le basket, c'est aussi un sport qui est très, très cérébral quand même. Il y a énormément de systèmes. Je sais que c'est pas comme au foot, par exemple, où c'est plus des principes de jeu, alors que vraiment au basket, je sais que cette année-là, dans notre équipe, on a plus de 30 systèmes et il faut les savoir sur chaque position. Donc forcément, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais pour revenir à la confiance, c'est un point clé. Un joueur qui est en confiance et un joueur qui ne l'est pas, c'est deux joueurs qui sont complètement différents. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des baisses de confiance. Mais le seul moyen pour moi de régler ce genre de problème, c'est le travail, c'est continuer à travailler. Si tu as fait un mauvais match, le lendemain, tu es à la salle et tu penses à rien et tu penses juste à mettre tes paniers. Ouais. C'est vrai que j'ai fait appel plusieurs fois à certains... À certains coachs,
de préparation mentale.
Ouais. J'ai eu ça à Neuchâtel et c'était quelque chose qui m'aidait énormément. Donc avoir quelqu'un, avoir un soutien, surtout quand tu es jeune, parce que quand j'étais arrivé, je jouais pas beaucoup, j'avais pas vraiment un statut. Donc il y a certains moments qui étaient compliqués à vivre.
Ouais, c'est ça. On peut faire un déplacement au Tessin, pas rentrer sur le terrain et puis revenir.
C'est ça. Et puis le lendemain, s'entraîner. Et puis il faut que tu fermes ta bouche. T'as pas ton mot à dire. Donc forcément, il y a certains moments, c'était compliqué où je doutais du fait d'avoir fait le bon choix. Est-ce qu'il fallait vraiment que j'arrête mes études ? Donc forcément, ce genre de baisse de confiance, elles arrivent. Mais je pense qu'elles arrivent à tout le monde. Même les grands joueurs de basket, ils sont passés par des phases où ils avaient des baisses de confiance. Mais là, on reconnaît la force de quelqu'un, c'est la rapidité avec laquelle il va rebondir. C'est ça, sur ce genre de situation. Donc si tu fais un mauvais match, ça arrive à tout le monde. Mais maintenant, il faut te concentrer sur le prochain match et puis essayer de faire mieux. Donc,
Alors, je sais pas si Mathéo voudrait venir poser une question. Alors Mathéo, tu peux venir, c'est pas de problème.
Bonjour. Est-ce que tu penses déjà à un futur post-basket, en fait, et à ces nouvelles impasses qui peuvent arriver ?
La retraite. Il a 24 ans et on lui parle déjà de la retraite.
Alors, écoute, non, pas encore, je viens de te dire. Je me laisse encore quelques années pour voir où est-ce que je peux arriver, si je peux aussi, comme Selim, vivre une expérience à l'étranger.
Mais, ça, c'est un objectif, aller jouer à l'étranger ?
Ouais, c'est un objectif, clairement, de pouvoir partir à l'étranger. J'espère pouvoir le faire dans les quelques années qui arrivent. Et non, pour le moment, je pense pas encore, mais forcément, mais c'est quelque chose qui me fait pas peur. Si un jour, ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Je regarderai ce que je ferai sur le moment, mais je sais que j'ai pas eu de difficultés à l'école. Je suis un assez bon élève, donc je me fais confiance pour la suite et puis pour trouver une voie entre guillemets d'échappatoire.
Ok, on pose la question. Alors, je vais essayer de reprendre sur les questions un peu parce que je rappelle qu'il faut concilier sport et études, donc. Alors il y a des questions sur la nostalgie. Est-ce que tu es nostalgique d'être de retour au collège ?
Ouais, c'est clair. Ça fait bizarre de revoir ce bâtiment. C'est toujours quelque chose de spécial. Je pense qu'on revient dans un lieu où on a beaucoup de souvenirs. Alors là, j'ai juste descendu les escaliers pour arriver à la cafette, donc j'ai pas fait le tour de tous les étages. Mais rien que d'être ici, ça me rappelle énormément de souvenirs, c'est sûr.
Alors question personnelle, est-ce que le... Tu mesures combien ? On a déjà dit 2 mètres. Tu arrives à descendre un peu les questions parce que je crois qu'on les a déjà toutes faites, celles-là. Le duel avec Mathilde, le 1-1, je ne sais pas si c'est un peu... Tu ne veux pas te blesser quand même. Hein. Ton équipe préférée en NBA ?
Alors, moi, je suis plutôt sur l'Euroleague.
Sur l'Euro, ah bah voilà, ouais. Les connaisseurs de vrai basket.
Voilà, ouais. C'est pour moi, ceux qui aiment la NBA, c'est cool parce que c'est un spectacle. Mais si on connaît le basket et qu'on aime le vrai basket, c'est l'Euroleague qu'il faut regarder.
Okay.
Puis en plus, l'Euroleague, ça passe à des heures convenables,
ouais.
Et pas à 3h du
alors,
mat.
Alors, ce sera quoi, Monaco, ce sera
ouais, bah, les équipes françaises plutôt, même si ça va pas fort pour l'ASVEL, mais ouais. Ouais, Monaco, j'aime bien.
Okay. Est-ce que tu étais fort au basket à l'école? Bon, ça semble assez évident. Tu avais une dispense de sport ou pas?
Bah, du coup, j'ai jamais fait de gym au collège à Saussure.
Ça, c'était
donc,
bien.
C'était plutôt cool.
Ok. Ton basketteur, basketteuse préféré? Tiens, après, il y a une question sur l'ego, ça va être pas mal, ça.
Ouais, basketteur préféré, je pense, dans l'histoire, je vais quand même citer un mec qui, était en NBA, c'était Dennis Rodman. Parce que forcément, c'était un mec qui n'était pas énormément talentueux, mais juste, c'était un chien de guerre. Et le mec, il finissait, il marquait 2 points, mais il prenait 25 rebonds. Donc, c'était vraiment, il avait un impact fou sur la dynastie des Bulls dans les années 90. Donc, ouais. Et puis actuellement, je pense que forcément, je suis assez content de voir des joueurs européens... dominer la NBA, donc Doncic, Jokic, Giannis.
Jokic, il te ressemble un petit peu, non? C'est un peu le
Non.
C'est un toit avec 15 cm de plus et 40 de plus, 40 kilos de plus.
Il y a un peu plus de QI basket quand même, je pense, mais forcément, ça fait plaisir de voir des joueurs européens qui aujourd'hui dominent la ligue américaine.
Ouais. Alors, il y a 3 nouvelles questions. Bon, là, jouer contre Clint Capela, on a déjà répondu au début de l'interview, c'est même ton coéquipier en équipe nationale. Sur les habitudes alimentaires, ça peut être intéressant. Est-ce que tu avais des habitudes? Alors, aujourd'hui, première chose, mais c'est surtout à l'époque du collège. Est-ce que tu pensais déjà à ça ou puis...
Alors non, à l'époque du collège, je ne pensais pas. Je pensais
kebab
surtout
et hamburger.
Je pensais surtout à manger vite. Donc forcément, j'allais à la COP, à la Migros du coin et j'achetais les sandwichs. Donc non, à ce moment-là, je n'y pensais pas. Mais dès que tu rentres dans la vie professionnelle, c'est quelque chose d'important.
Ouais.
Donc on n'a pas un régime strict. Mais on a des repas équilibrés tous les jours, matin et soir. Donc voilà, j'essaie de faire attention.
C'est le club qui organise ou bien c'est toi qui t'organises?
Pour les repas du midi, on mange en équipe tout le temps au restaurant. Donc on a le choix, on a des buffets, donc ça reste de la nourriture saine. Et le soir, c'est moi qui fais à manger chez moi, mais j'essaie de faire attention.
Ok. Ta routine à la salle, alors je sais pas si tu as un rituel... Alors, à l'heure actuelle, de professionnel?
Souvent, on arrive entre 1h30 et 2h avant le match à la salle, histoire de bien se préparer. On a les masseurs qui sont prêts, les physios aussi, pour faire les différents bandages, les tapes, tout ça aux chevilles. Moi, j'aime bien regarder des vidéos, être assez relax dans le vestiaire. Il n'y a pas vraiment... Je révise un peu les systèmes parce que forcément, on doit apprendre les systèmes aussi des équipes adverses avant de venir jouer. Donc, on doit les connaître par cœur. C'est limite si on a des examens aussi. Donc, des fois, ils nous posent des questions pièges et tout, le coach. Donc,
Il y a quoi? Il y a 9 équipes. Au bout d'un moment, ils rentrent, vous les jouez. 11, ça a augmenté. Okay.
11. Mais non, c'est vrai que c'est un passage. Le scouting, c'est quelque chose de très important au niveau professionnel. C'est qu'il faut vraiment savoir... les caractéristiques personnelles des joueurs en face de toi.
Dans la semaine avant, vous jouez les systèmes des autres équipes, c'est ça.
Il y a une équipe on a 2 à 3 séances vidéo dans la semaine où on va juste regarder les systèmes où on a l'assistant qui fait des cuts sur l'ordi pour analyser les systèmes et les caractéristiques des joueurs. Donc voilà, je regarde ça et puis ensuite... Je vais sur le terrain, je fais 15 minutes de tir, on rentre et puis après voilà, ça va très vite, il y a le speech du coach et puis ensuite il y a les dernières 30 minutes où on s'échauffe en équipe.
Fort, là il y a des questions, c'est plutôt sur la vie actuelle de professionnel. Tu t'entraînes combien de fois par semaine hors entraînement? J'imagine ça c'est des entraînements individuels, préparation physique.
Quand on est dans une équipe pro, on fait tout ensemble. Donc c'est difficile d'aller s'entraîner tout seul. Quand on a des sessions fitness, on fait ça tous ensemble. Après, c'est vrai que j'ai aussi un accès à l'Active Fitness. Donc, j'y vais de temps en temps, mais c'est plus pour de la récup. Je ne vais pas vraiment aller soulever. Je vais plus aller faire du stretching, de la mobilité et tout ça.
Là, il y a des questions sur les langues. Est-ce que les langues que tu as apprises au collège t'ont été utiles? Et puis, indirectement, l'allemand ou l'anglais en équipe nationale? Je connais la réponse, mais vas-y.
Alors, l'anglais, je parle tous les jours parce que dans l'équipe, déjà à Neuchâtel, notre coach, il est serbe. L'assistant, il est américain, et puis on a 4 étrangers. Donc,
qui sont eux aussi?
Alors, il y a deux Américains, un Argentin et un mec qui vient de l'île de la Grenade. Okay. Donc l'anglais, c'est obligatoire.
Et donc même l'Argentin parle anglais aussi.
L'Argentin parle anglais, tout le monde parle anglais. C'est, à ce niveau-là, c'est quelque chose que tu es obligé d'avoir. Parce
et en
que,
équipe nationale, c'est la même chose en fait.
Hein, et en équipe nationale, c'est la même chose parce que notre coach, il est grec. Donc, voilà. Et puis en plus, bah, voilà, y a des Tessinois et il y a un peu de Suisse allemand. Donc forcément...
Donc tout le monde parle anglais, quoi.
Tout le monde parle anglais.
C'est l'ADN. Ok, bah écoutez, à moins qu'il y ait une dernière question, je crois qu'on va gentiment s'arrêter là. S'il y a quelqu'un qui veut encore prendre la parole, il peut lever la main, mais sinon on va s'arrêter là. On va te remercier, Kylian, de ta présence. Merci beaucoup d'être venu.
Pas de souci.
Voilà, je signale à tout le monde que les podcasts qui sont enregistrés, vous pouvez aller les consulter sur le site du collège. Vous avez un lien qui vous emmène sur le site de Radio Saussure. Et donc, vous pourrez réécouter ce podcast... dès qu'il sera monté, au plus vite. Hein. Voilà. Merci à tout le monde pour votre attention. Merci à Kylian pour sa présence. Et puis à très vite.
Merci à tous. Merci.